vous remercie beaucoup de cette présentation et je vous remercie également de me donner donc l'occasion de vous présenter une synthèse des travaux auxquels je me suis attelé depuis une vingtaine d'années sur cette histoire des villes médiévales de l'Orient latin, qui, je ne vous le cacherai pas, s'avère une aventure périlleuse, tant ces espaces portent davantage les marques et parfois les stigmates d'un passé bien plus récent. Dans le cas de Nicosie, la capitale chypriote, les fortifications vénitiennes en plan étoilé de 1567-1570, dont la construction a nécessité la démolition de près d'un tiers de la cité médiévale, et la fameuse ligne verte, ou buffer zone en anglais, qui aujourd'hui coupe encore la ville en deux, séparant la République de Chypre au sud de la zone occupée par l'armée turque au nord, constitue certainement des obstacles importants à la restitution d'un paysage urbain dont il reste peu de traces. Avec cette vue aérienne sur la gauche, vous distinguez bien encore les 12 bastions de la construction vénitienne. Et sur la photo de droite, vous avez un bout de cette ligne verte qui suit au centre de la ville, le tracé de l'ancienne artère commerçante, la rue Hermou, qui coupe la ville d'est en ouest et qui est aujourd'hui bordée de postes de contrôle des deux armées. Un seul point de passage au centre de la ville, au bout de la rue Lédra, permet encore de passer de la partie sud à la partie nord et inversement. À la difficulté donc d'étudier un espace profondément remodelé, il faut également prendre acte de la disparition presque totale des archives de la ville et du royaume chypriote, emportés par les événements politiques et militaires des XVe et XVIe siècles, à l'exception toutefois de quelques pièces d'archives qui ont pu rejoindre de Nicosie les capitales occidentales et notamment italiennes, les bibliothèques occidentales. D'autres sources, comme les récits des voyageurs occidentaux, permettent toutefois aux médiévistes de combler les lacunes de la documentation et de prendre ainsi la véritable mesure d'une ville qui, de par sa taille, sa superficie et sa population, comptait environ 20 000 habitants, soit comparable pour l'Occident à des villes comme Amiens, Lille ou Lyon, et en Orient, parmi les plus grandes cités du monde grécophone, à savoir Salonique et Athènes, où on a des approximations entre 20 et 30 000 habitants. Pour démarrer donc cette enquête, que j'espère passionnante, je souhaiterais que nous fassions connaissance avec quelques voyageurs normands, partis pour certains en pèlerinage en Terre Sainte, ou pour d'autres à la recherche d'aventures et de la fortune dans les royaumes latins du Levant, et qui se sont donc passés par Chypre. À l'occasion de leur retour, ils ont dû livrer leurs impressions sur Nicosie à leurs compatriotes, peut-être près de ce palais de l'archevêché où nous trouvons ce soir. Ces pèlerins ont été les témoins involontaires des principales ruptures et évolutions politiques et sociales de l'île et de sa capitale au Moyen-Âge, de la reconquête byzantine en 965 jusqu'au début de la domination ottomane en 1570-1571, qu'il est donc nécessaire de rappeler ce contexte chronologique avant d'aborder véritablement l'évolution historique de la capitale. Un siècle après le retour de l'autorité impériale et de la fin de la présence musulmane, 965, Chypre reçoit la visite de plusieurs occidentaux, notamment de Guillaume Bonhomme, dont on voit le sceau sur cette diapositive, abbé de Saint-Étienne de Caen, puis archevêque de Rouen, accompagné de Thierry de Matonville, prieur à Jumièges et abbé de Saint-Évroult, qui meurt, ce dernier, sur l'île en 1059, selon l'historien également moine de Saint-Évroult, historien normand bien connu, Ordéric Vital. Leur passage coïncide peu ou prou avec le transfert de l'administration byzantine et du siège archiépiscopal de Constantia Salamine, que vous avez sur la côte, vers Nicosie, au centre de l'île, une capitale au centre de l'île, un cas unique en Méditerranée, dans les grandes îles de la Méditerranée. Nicosie qui accède donc ainsi au statut de capitale. L'île est conquise par le roi croisé anglais Richard Cœur de Lion en 1191, vendus aux Templiers qui, à leur tour, la cèdent l'année suivante à un vassal du roi anglais, Richard, Guy de Lusignan, issu d'une dynastie poitevine installée en Terre Sainte. C'est le frère de Guy, Emery Lusignan, qui reçoit en 1197 une couronne de l'empereur germanique Henri VI et met en place les institutions latines à Chypre, importé majoritairement du royaume de Jérusalem, tout en préservant, en maintenant localement des institutions administratives financières byzantines. Les Lusignans confirment le choix de Nicosie comme capitale, où ils vont concentrer les fonctions politiques, religieuses, diplomatiques et dans une moindre mesure économiques et artisanales dans cette capitale. Au cœur de cette ville, Robert Masselin, diplômé en médecine et émigré rouennais, fuyant l'occupation anglaise en ce début du XVe siècle, est l'observateur privilégié de cet âge d'or que constitue cette courte période de la première moitié du XVe siècle. Il occupe la fonction de précepteur du fils du roi Janus de Lusignan, auquel il est chargé d'enseigner la langue française, apprenant lui-même, Robert Masselin, en retour le grec et l'arabe, dans cette capitale, on pourrait dire, multiculturelle avant l'heure. Le maître normand est certainement arrivé à Chypre en compagnie de Charlotte de Bourbon, l'épouse française de Janus. Nous possédons, comme vous le voyez, l'image n'est pas très nette, une unique représentation, assez émouvante à mes yeux, du couple royal qui figure au pied d'une crucifixion sur les murs de la chapelle royale de Pirga, qui se situe à une trentaine de kilomètres au sud de Nicosie. La domination de cette dynastie se termine en 1474, lorsque l'île passe sous domination vénitienne, et c'est un groupe de voyageurs qui, en 1507, s'arrête à Nicosie en chemin vers Jérusalem. Il nous laisse une brève description de la capitale chypriote. Parmi ces pèlerins, on compte Pierre Mésange, l'auteur du récit conservé dans un manuscrit à Amiens, la bibliothèque municipale d'Amiens, au fond de l'Escalopier. Des marchands et des on rencontre également des marchands et des ecclésiastiques originaires majoritairement de Rouen, mais également d'autres cités normandes comme Jean Masselin, Jacques de Chesnay, Jean Chauvin, qui est natif de Vire. Un autre Masselin, Nicolas Masselin, Jean Boismer et Charles de la Rivière, un chanoine de Lisieux. Pierre Mésange, l'auteur du récit, donc s'émeut de la beauté de la cathédrale Sainte-Sophie, dont il associe la construction aux Lusignans et manifeste sa surprise de voir des Grecs assister à des offices latins. De manière plus générale, les voyageurs occidentaux attribuent le rang et la fortune de la ville de Nicosie à la volonté et à l'habileté politique des monarques chypriotes imprégnés de l'idéal du prince bâtisseur de royaume et de capitale qui accourt à cette époque en Occident, 14e, 15e siècle. Ce regard pèlerin sur la ville chypriote mérite d'être interrogé à nouveau frais, à la lumière notamment des études historiques récentes de ces 20 dernières années sur la capitale chypriote auxquelles ont consacré des chercheurs comme Panos Leventis, donc Gilles Griveaux, Chris Schaebel ou Nicolas Couréas. Je vous propose donc de voir, à l'instar du Caire des Fatimides, de Naples des Angevins, de Barcelone des Rois d'Aragon, comment la dynastie des Lusignans a inscrit son pouvoir dans l'espace urbain nicosiate et a érigé la ville en une capitale majeure de la Méditerranée orientale. Ainsi, je vous propose dans un premier temps de montrer que l'évolution de l'espace urbain nicosiate est marquée par un patronage royal dynamique, notamment vis-à-vis des églises, pour voir ensuite comment cette dynastie confère à sa ville un statut de capitale méditerranéenne grâce à une politique matrimoniale ambitieuse et à la création d'un nouvel ordre de chevalerie qui diffuse depuis Nicosie l'idéal et la mémoire de la croisade chez les chevaliers occidentaux. Cette politique s'accompagne chez les souverains du développement d'un secteur artisanal du luxe, soutenu par une législation économique et commerciale mise en place par les Lusignans que nous envisagerons donc dans un troisième temps. Après la conquête de l'île par la flotte byzantine de Nicétas Chalcodzis en 965, les sources ne permettent pas vraiment d'appréhender l'organisation spatiale des villes chypriotes. Quelques témoignages assurent toutefois d'un renouveau urbain au XIe-XIIe siècle qui se manifeste donc par l'accession de Nicosie au statut de capitale, comme je l'ai déjà évoqué en introduction, et l'activité également croissante de marchands italiens, principalement vénitiens, dans les villes insulaires. L'état des possessions vénitiennes dressé en 1243 par un consul vénitien, Marsilio Zorzi, permet de mesurer leur implantation, l'implantation de cette communauté marchande dans la capitale. Le rapport du consul dévoile un tableau des villes chypriotes sans quartier spécifique véritablement dédié aux marchands italiens, comme on peut en trouver à cette époque-là dans d'autres villes levantines, et notamment le cas le plus célèbre et le mieux connu, la ville d'Acre. Les villes insulaires présente encore de vastes espaces libres de construction et ouverts sur les campagnes environnantes, à l'exception au centre de la ville d'un castrone byzantin, une ville à cette époque dépourvue encore de fortifications et qui comporte donc davantage des îlots urbains que des quartiers en cette fin du XIIe siècle. Après la prise du pouvoir par les Latins en 1191, le poids des villes va considérablement se renforcer et les Lusignans vont conforter le statut de Nicosie. En effet, cette capitale insolite au centre de l'île possède bien évidemment des atouts. Les Lusignans savent apprécier la situation géographique favorable de cette nouvelle capitale, au centre donc d'une vaste plaine bien drainée, la Messarée, qui s'étend en s'évasant donc de la baie de Morfou à l'ouest de la ville jusqu'à la baie de Famagouste, ici, donc pour la plaine de Messarée, et au sud, la baie de Larnaca, une plaine de la Messarée qui a une forme de cône et qui est donc encadrée au sud-ouest par un vaste massif, le massif du Troodos, qui culmine à peine 2000 mètres, et au nord, par une chaîne étroite, abrupte, difficilement franchissable, seulement par quelques cols, même si elle est moins élevée, puisqu'elle culmine à environ 1000 mètres, donc la chaîne de Sérine ou du Pendasactylos, la chaîne de Kérigna aujourd'hui. La plaine de la Messarée, et donc Nicosie, bénéficie d'un climat salubre, à la différence des grandes villes côtières, Famagouste, Limassol et Paphos, qui sont des régions marécageuses où les voyageurs constatent l'insalubrité du climat et sont victimes très régulièrement lors de leur halte de fièvre et parfois ils laissent leur vie. La plaine de la Messarée et Nicosie bénéficient également de ressources abondantes en eau. En effet, si tout au long du Moyen-Âge, Nicosie est traversée par un fleuve au débit intermittent, le Pédéos, on voit la source dans le Troodos, et qui s'écoule jusqu'au nord de Famagouste, qui traverse donc Nicosie, ce fleuve au débit intermittent, c'est véritablement l'exploitation de la nappe phréatique par un système de puits actionné par des norias qui permettent d'alimenter les nombreuses fontaines et les nombreux jardins de la capitale. On reconnaît ici, sur le folio du manuscrit à gauche, une noria ou alakati en dialecte chypriote qui est représentée donc dans le manuscrit du récit de voyage de l'italien Alessandro Magno au milieu du XVIe siècle. Ce système d'adduction d'eau est encore utilisé dans les campagnes chypriotes au milieu du XXe siècle, comme cette carte postale à droite en témoigne encore. Les premiers quartiers apparaissent autour de bâtiments religieux ou civils qui sont édifiés à l'occasion de l'organisation des différents pouvoirs dans les villes. À Nicosie, le premier palais des Lusignans, confisqué au marchand vénitien Leonardo Sabatini, et l'église Saint-Nicolas des Vénitiens concentre la majeure partie de l'activité urbaine à l'est de la ville. On a le palais royal ici et l'emplacement supposé de l'église latine Saint-Nicolas des Vénitiens, donc une topographie ici de la fin du XIIe siècle. On peut distinguer sur ce plan deux autres quartiers, un quartier au centre de la ville, donc le Castron, Castrum, château byzantin, une église, une supposée église du temple, et une église Sainte-Sophie à l'emplacement de la cathédrale latine sur laquelle nous allons revenir. Plus récemment, l'archéologie, qui nous permet donc d'avoir de nouvelles données sur la topographie de la ville, nous a permis d'identifier deux églises, église A et B, nous n'avons pas la dédicace, deux églises byzantines qui ont été découvertes sur le chantier de fouilles de la nouvelle mairie de Nicosie. La construction des églises et des monastères au XIIIe siècle permet l'émergence de nouveaux noyaux urbains qui s'agrègent progressivement en raison de la croissance, notamment de la population, due à l'arrivée de Latins et de Syriens réfugiés du Levant tout au long du XIIIe siècle. Ainsi, la topographie nicosiate nous est révélée principalement à travers l'implantation des édifices religieux en raison de la nature des sources principalement ecclésiastiques. Les Lusignans, à l'origine de la fondation de l'Église latine de Chypre, vont être les protecteurs de ses droits et de ses privilèges. La cathédrale Sainte-Sophie, aujourd'hui connue sous le nom de mosquée Sélimié, et son cartulaire, conservé à la bibliothèque Saint-Marc à Venise, témoigne de l'importance du patronage royal pour réaliser les différentes campagnes de travaux. Si les premières concessions territoriales à l'Église sont modestes, les Lusignans vont progressivement augmenter leurs donations à la fin du XIIIe siècle en multipliant les messes commémoratives pour les membres de la famille, de leur famille, et en érigeant des autels dans la nef. Et ces fonds vont donc permettre la construction de cette cathédrale. La cathédrale Sainte-Sophie, par ses dimensions sans égale dans tout l'Orient latin, 68 mètres de long sans le porche, 25 mètres de largeur et 21 mètres de hauteur, révèle les ambitions politiques de la monarchie chypriote. C'est très certainement en 1209, Albert, légat pontifical et patriarche de Jérusalem, qui posa la première pierre de l'édifice. Mais le chantier fut réellement lancé par l'archevêque Eustorge de Montaigu, c'est 1217-1250, qui appartenait à une riche famille de chevaliers auvergnats bien implantés à Chypre. L'étude archéologique du monument permet de déterminer quatre phases de construction qui s'étendent donc de 1209 au début du XIVe siècle, soit près d'un siècle jusqu'à l'archiépiscopat de l'archevêque italien, donc Jean Conti, à l'origine de l'introduction du style gothique rayonnant sur l'île. L'historien de l'art boulonnais Camille Enlard avait mis en lumière à la fin du XIXe siècle les principales sources d'inspiration des maîtres d'œuvre de cette cathédrale. La présence de deux chapelles latérales à l'abside, à gauche vous avez le plan de Sainte-Sophie, donc ces deux chapelles nous les avons ici, à la place du transept, évoque sans conteste par exemple la cathédrale Saint-Étienne de Sens, où à la place du transept on a également deux chapelles latérales. Alors que le traitement de la façade occidentale, l'intérieur de la façade occidentale, qui lie les fenêtres hautes à l'ancêtre, avec les baies au-dessus, et le triforium en dessous, rappelle sans conteste le traitement des travées de la nef de la basilique Saint-Denis, avec également les fenêtres hautes et le triforium. En revanche, le chevet de la cathédrale nicosiate témoigne davantage de l'influence de l'art cistercien, tant les similitudes avec le chevet de l'abbatiale de Pontigny sont importantes. Prolongeant le travail de Camille Enlard, l'historien de l'art chypriote Michalis Olympios a récemment mis en lumière d'autres analogies avec le gothique rayonnant du nord de la France, notamment pour le porche. On a des motifs floraux, par exemple, que l'on retrouve sur le portail central de Nicosie, des rosettes avec quatre pétales, qui appartiennent donc au même répertoire iconographique que celles qui essaiment sur les édifices religieux du nord-est de la France. On trouve ces rosettes à quatre pétales à Reims, à Noyon ou à Soissons. L'église est évidemment le centre majeur de la vie religieuse de la communauté latine, mais également le cadre officiel des cérémonies des souverains, comme les couronnements et certaines inhumations au XIIIe siècle. Le style gothique s'impose certainement pour les autres édifices religieux de la capitale, même si la majorité d'entre eux ont aujourd'hui disparu. Donc ici, vous avez la localisation de quelques édifices sur un plan actuel de Nicosie. Et par commodité, pour se repérer, j'ai tracé en rouge les douze bastions et également le fleuve, le Pédiéos en bleu, qui en 1567, lors de la construction des fortifications, a été détourné par les Vénitiens autour de la muraille. Mais donc, il faut imaginer le plan médiéval de Nicosie sans ces fortifications, avec donc le fleuve non canalisé qui coulait au milieu de la ville, avec la principale voie qu'on appelle la Ruga Coperta, en pointillé, en rouge. Presque tous les ordres latins sont représentés dans la capitale, comme les cisterciens, qui possèdent le prieuré Saint-Blaise dès 1215, les religieuses cisterciennes de Sainte-Marie. Alors, tous les édifices religieux ne sont pas localisés. On a les cisterciennes de Sainte-Marie-Madeleine au sud de la ville, qui s'installent donc à partir de 1222. Les cisterciennes s'installent également à Saint-Théodore, qui a un des rares sites où on a pu avoir une campagne de fouilles à l'occasion de la construction d'un palais de justice. Et donc, on attend pour l'année prochaine la publication d'une histoire de ces cisterciennes de Saint-Théodore à Nicosie, dirigée par Chris Schabel et Michalis Olympios. Les bénédictins sont installés à Sainte-Marie de Dragonaria et les femmes du même ordre à Notre-Dame de Tortose, à l'ouest de la ville, au centre, près du Pédiéos. Désolé, mon pointeur ne fonctionne plus. Notre-Dame de Tyr, davantage au centre de la ville. Et Sainte-Anne et Saint-Lazare, donc des bénédictines également, mais cette fois à l'est. À l'est de la ville, Sainte-Anne et Saint-Lazare, qui correspondent toutes, ces monastères, à des transferts d'établissements du royaume de Jérusalem, de Syrie-Palestine, qui se replient à Chypre et à Nicosie au cours du XIIIe siècle, devant l'avancée des musulmans. L'attachement des Lusignans à ces ordres se manifeste à travers l'exemple de Henri II, du roi Henri II, qui verse 18 000 besans à Notre-Dame de Tyr pour réparer les dégâts causés par un séisme. Les ordres mendiants, franciscains, dominicains, augustins et carmes, s'établissent également dans la capitale entre 1220 et 1300 et entretiennent à diverses époques des liens étroits avec la monarchie. Le couvent de Saint-François, que l'on va trouver à l'ouest de la ville, Franciscan Convent, près du Pédiéos, est un des plus imposants de la capitale avec ses deux cloîtres. L'ordre franciscain bénéficie de la protection royale, comme celle de Janus, jusqu'en 1359. Puis on a un autre exemple au XVe siècle avec Janus, sans doute influencé par son épouse Charlotte de Bourbon, dont j'ai déjà parlé, qui s'adresse donc Janus par un écrit. Qui adresse par écrit un témoignage en faveur de la franciscaine tourangelle Jeanne-Marie Maillet à son procès de canonisation au début du XVe siècle. Situé près de l'actuel Paphos, donc à l'ouest de la ville et du palais royal, non loin du couvent franciscain, nous trouvons le couvent des Dominicains, qui est également protégé par les Lusignans. Leur église constitue à partir de 1359 une véritable nécropole royale, une sorte de Saint-Denis des Lusignans, avec les 24 tombes de la famille. Cet ensemble est démoli lors des travaux des fortifications vénitiennes en 1567-1570. Signalons également le couvent des Augustins, au centre de la ville, dont l'église, aujourd'hui une mosquée, la mosquée Omrieh, qui est toujours en fonctionnement dans la partie sud de la ville, est un des monuments médiévaux les mieux conservés de Nicosie avec la cathédrale. Le cliché de gauche représente le mur de l'hôpital du couvent qui date du XVe siècle et on a le portail, donc le portail actuel de la mosquée qui se trouve devant. À côté de ce dense maillage des établissements latins dans la capitale, on ne s'étonnera pas non plus de voir des églises et des monastères de rite byzantin continuer sous les Lusignans d'accueillir la population de rite orthodoxe, la population grecque majoritaire dans la capitale, même s'il est souvent difficile de localiser ces églises et ces couvents. On a Notre-Dame d'Andrion, Sergio Flatro, Saint-Georges des Manganes, au sud de la ville, monastère féminin de Phanéroménie, au centre de la ville, qui est aujourd'hui une grande église byzantine. Saint Jean l'évangéliste de Bibi, qui se trouve à côté, qui est l'église de l'archevêché de Nicosie aujourd'hui. Cependant, l'originalité de la capitale chypriote tient certainement à la politique d'accueil des Lusignans faite aux communautés de chrétiens orientaux fuyant l'avancée musulmane en Syrie-Palestine tout au long du XIIIe siècle. Un bref tableau de ces communautés nous permet peut-être de mieux comprendre comment il était aisé pour notre précepteur normand, Robert Maslin, d'apprendre le grec et l'arabe à Nicosie. De nombreuses familles arméniennes s'agrègent dans les quartiers sud et sud-ouest de la capitale, près du palais royal, car cette nation est attachée à sa défense. Non loin de là se trouve la cathédrale Sainte-Croix, qui est égale à la Sainte-Croix des Arméniens, qui est détruite également en 1567 lors des fortifications vénitiennes. Trois autres églises dédiées à la diaspora arménienne sont également connues, une petite église, une église Saint-Basile et une église Saint-Pierre et Saint-Paul. Moins homogènes que les Arméniens, les Syriens constituent certainement la minorité ethnique la plus importante à Nicosie. Ils se différencient du reste de la population par la connaissance de la langue arabe et bénéficient d'un statut juridique envié par la majorité grecque. À Nicosie, les affaires de droit privé des chrétiens orientaux relèvent d'une cour des Syriens qui est présidée par un raïs, une institution qui est importée directement du royaume de Jérusalem. Au XVe siècle, la communauté des Syriens monophysites, dite jacobite, de Nicosie, reçoit un éclairage particulier à travers un dossier documentaire qui concerne une famille importante, celle des Odettes. Un dossier constitué de ventes, de donations et de testaments, riche donc d'enseignements sur les édifices religieux de ces chrétiens orientaux. Les testaments de la famille permettent d'identifier deux édifices religieux au sud-ouest de la capitale, non loin du palais royal et du quartier arménien. Cependant, la plupart des membres de la famille résident au nord-est de la capitale, où l'on identifie deux autres églises disparues et un monastère également disparu avec la construction des fortifications vénitiennes, une cathédrale Notre-Dame et une église Saint-Georges et un monastère Sainte-Croix. Il semble alors vain de vouloir assigner un quartier dédié exclusivement à cette communauté sur le modèle du ghetto que l'on peut trouver, que l'on rencontre à Venise pour la communauté juive. Le palais royal et les bureaux de la chancellerie offrent en effet de nombreux emplois aux Syriens qui peuvent se prévaloir de la connaissance des langues orientales, de l'arabe, du grec. Des privilèges et des sentences de la haute cour portent la signature de noms à consonance syrienne comme Philippe Sallah, Nicolas Sallah, Perrin, Uri. Des Syriens comme les Bibi ou les Goules travaillent également à la Secrète, qui est une administration, un bureau en charge de l'administration financière du royaume. Les structures institutionnelles donc, du royaume et de la capitale favorisent donc l'intégration des chrétiens orientaux à la société nicosiate et chypriote. Plus étonnant encore, la ville de Nicosie accueille des Coptes égyptiens et des chrétiens noirs, des Éthiopiens et des Nubiens qui possèdent leurs propres établissements religieux fonctionnant comme de véritables centres intellectuels. À cet égard, les manuscrits qui proviennent du monastère Saint-Sauveur des Coptes à Nicosie, acheté au XVIIe siècle par le père Van Sleb pour le compte de Louis XIV, et actuellement conservés à la Bibliothèque nationale, sont éloquents. Le manuscrit copte 38 renferme un rituel de la fête de Saint Chénouté, un père du désert égyptien, similaire à Pacôme ou Antoine, IVe siècle, rédigé en trois langues, en saïdique, au centre, en saïdique en rouge, le saïdique qui est un dialecte copte, en grec, en bas, et en arabe, donc un manuscrit trilingue. Ces communautés maintiennent donc des liens avec leur nation d'origine, grâce au dynamisme des réseaux diasporiques. On a la visite d'Abou Awa Stéphanos, par exemple, un saint copte à Nicosie, maintient donc des réseaux diasporiques, tout en s'ouvrant aux autres minorités chrétiennes sous la protection de la monarchie chypriote. Les rues et les places de Nicosie constituent des espaces de visibilité les plus évidents de ces chrétiens orientaux. À Nicosie existe une rue des Syriens qui est orthogonale, perpendiculaire au Pédieos et à la rue principale, cette Ruga Grande, orientée elle-même est-ouest, qui concentre certainement une partie des activités des activités commerciales de cette communauté syrienne. Lors de l'entrée solennelle du roi Henri II, le 10 septembre 1310, le cortège emprunte la rue des Syriens et les membres de cette communauté portent des couleurs distinctives, rouge et vert, aux côtés des bourgeois francs, des vénitiens, des génois et des pisans. La monarchie remplit ici un double objectif. D'une part, en réaffirmant l'intégration à l'espace urbain public par sa procession d'une rue potentiellement communautaire, une rue des Syriens, et d'autre part, en incluant les minorités orientales, donc les Syriens, dans la société nicosiate, par leur participation au cortège royal d'entrée dans la ville. La politique d'inclusion à l'espace urbain et à la société, à l'œuvre pour les minorités orientales, s'observe également pour d'autres groupes sociaux. À Nicosie semble s'être constituée, au début du XIVe siècle, une tendance à la constitution donc d'îlots urbains ségrégatifs où vont se concentrer quelques familles de la vieille noblesse franque. On a le quartier, par exemple, des Kuntiaka, des comtes, qui, avant d'être rasés par la construction d'une citadelle au XVe siècle, regroupaient les résidences des comtes de Tripoli, les titulaires des comtes de Tripoli et de Jaffa. Dans le cas présent, donc, le quartier s'organise autour d'un grand lignage sur le modèle des alberghi à Gênes, qui fonctionne presque de façon autonome, avec ses entrepôts, avec ses échoppes, et des familles qui font allégeance à ce clan. Cependant, ce modèle ségrégatif n'a pas dû être prédominant, et du moins n'a pas dû se maintenir au-delà du milieu du XIVe siècle, en raison principalement d'un facteur, le déclin de la société franque. Les élites urbaines d'origine latine, ont décliné, du point de vue de la démographie, en raison de la peste, en raison du phénomène d'oligoanthropie. Tout simplement, ils se retrouvent en situation minoritaire par rapport à la population grecque et syrienne. Ils ont dû ouvrir leur rang à de puissants lignages grecs et syriens qui avaient acquis leur honneur et la fortune dans le commerce, comme l'illustre le cas d'une famille grecque, d'origine grecque, Podocataro, dont le palais est en partie conservé à Nicosie. L'architecture et la distribution générale des pièces sont certainement représentatives des résidences palatiales des élites nicosiates. Les façades qui donnent sur la rue, on constate ici, donc ce palais se trouve au sud, actuellement dans la partie sud de la ville. Les façades qui donnent sur la rue sont assez austères, mais comportent quelques éléments marqueurs, comme notamment des armoiries sud du portail d'entrée. Le portail ouvre ensuite sur une grande cour intérieure, fermée, où l'on trouve une fontaine, des bains, un four, des étables. Les pièces du rez-de-chaussée ont une vocation artisanale ou commerciale. On y trouvait des ateliers, des entrepôts, alors que l'étage, lui, était réservé à la résidence du seigneur, de la famille du seigneur. Ce modèle palatial est en fait immergé dans un lacis d'habitation peut qualifier de populaire, qui favorise donc le développement d'échanges entre les lignages nobles et bourgeois et la clientèle de voisins, parents, amis qui viennent s'intégrer autour de cette résidence donc lignagère. L'importante mixité confessionnelle observée à travers la dispersion des édifices religieux des différentes communautés se double donc d'une ségrégation sociale très modérée, admettant une dispersion importante des habitats populaires et des résidences des élites dans l'espace urbain nicosiate. En choisissant de rassembler à Nicosie la majorité de la noblesse insulaire et en concentrant les principales fonctions politiques, administratives et judiciaires du royaume au détriment des villes portuaires comme Paphos, Limassol et surtout Famagouste, les Lusignans tiennent leur capitale éloignée des grandes lignes maritimes qui sont tenues par les puissances italiennes, Venise, Gênes et également catalanes, avec Barcelone. Famagouste profite d'ailleurs de cette situation privilégiée sur ces grandes lignes maritimes en jouant le rôle de plaque tournante du commerce entre Orient et Occident après notamment la chute de Saint-Jean d'Acre en 1291, l'ultime place forte aux mains des Latins sur la côte levantine. L'arrivée des marchands italiens et des commerçants syriens à Famagouste va assurer sa prospérité au moins pendant un siècle, de 1291 jusqu'à la prise de la ville par les Génois en 1374, qui, de manière paradoxale, va un petit peu précipiter son déclin. À défaut de rivaliser avec Famagouste comme place commerciale, Nicosie va réussir à s'imposer sur la scène diplomatique méditerranéenne et européenne par d'autres biais. Durant leurs 3 siècles de domination sur l'île de Chypre, les souverains chypriotes ont su adapter leur politique matrimoniale au contexte géopolitique du Levant, mais aussi à l'évolution interne de la société chypriote. Les premiers Lusignans demeurent fortement attachés au royaume de Jérusalem et contractent des unions avec les plus grands lignages d'outre-mer. Guy, le seigneur de Chypre, épouse Sibylle, la fille du roi de Jérusalem, Amaury Ier, tandis que son frère, le frère de Guy, Emery, le premier roi de la dynastie, conclut une alliance avec une puissante famille, celle des Yvelins, Échive d'Yvelin, puis Isabelle de Jérusalem, et va ajouter ainsi sur sa tête la couronne du royaume de Jérusalem à celle de Chypre. La chute des États latins d'outre-mer permet au royaume de Chypre de renforcer son indépendance et d'établir des relations diplomatiques avec d'autres principautés ou royaumes. Dès lors, les unions contractées par les souverains chypriotes participent à cette recherche de prestige sur la scène européenne. Le royaume d'Aragon apporte 2 princesses au roi chypriote, avec Constance qui épouse Henri II en 1317 et Éléonore qui s'unit à Pierre d'Yvelin, Éléonore d'Aragon, donc qui s'unit à Pierre d'Yvelin, à Pierre Ier, pardon, en 1353. La guerre contre Gênes en 1373-1374, puis l'occupation génoise de Famagouste de 1383 à 1464, va déterminer ensuite largement les alliances matrimoniales avec les autres puissances européennes. Pierre II, successeur de Pierre Ier, qui va épouser Valentine Visconti en 1376, qui est fille du seigneur de Milan, Barnabo Visconti, donc en opposition avec les Génois qui occupent à cette époque-là Famagouste. Et Janus, qu'on retrouve 1398-1432, qui se marie en première noce avec Héloïse Visconti, la sœur de Valentine, toujours une alliance avec Milan contre Gênes, qui est l'ennemi à cette époque-là de Chypre, puisque Famagouste est occupé par ces Génois. Donc Janus épouse Valentine en 1392, il n'a pas d'enfant avec elle, donc il a un second mariage avec Charlotte de Bourbon, son épouse française. Ces mariages donnent lieu à des célébrations fastueuses et permettent le rayonnement de la monarchie et de sa capitale. Charlotte de Bourbon s'installe à Nicosie avec une suite nombreuse de dames, de pages, d'artisans, de musiciens qui contribuent à raviver la culture française dans la société chypriote, notamment à la cour des Lusignans. Au XVe siècle, 2 mariages avec la maison de Savoie, Anne de Lusignan qui épouse le duc Louis de Savoie en 1433, et Charlotte de Lusignan avec son cousin Germain, donc également Louis de Savoie, le fils du duc précédent en 1459. Ces unions donnent lieu à d'intenses échanges diplomatiques et culturels, dont je vais reparler par la suite, entre les cours de Chambéry et de Nicosie. La diplomatie des Lusignans s'est également jouée des symboles pour séduire les chevaliers, les cours occidentales, et les inciter à diriger leur attention vers Nicosie. La création de l'ordre de chevalerie, appelé ordre de l'épée, au début des années 1360 par le roi Pierre Ier, en témoigne. Dans un premier temps, le souverain chypriote a la volonté, par la création de cet ordre, de raviver le souvenir des croisades parmi la chevalerie occidentale en construisant une organisation dédiée à cet objectif, la croisade. Ce nouvel ordre de chevalerie, au cœur du XIVe siècle, devait constituer un corps d'élite, fer de lance d'une réforme morale de la chevalerie, de la société, en consacrant les efforts des chevaliers à un objectif, la délivrance du Saint-Sépulcre. Cet ordre va en effet fournir une base militaire pour les dernières expéditions occidentales en Orient, vu de la reconquête de la Terre Sainte, l'expédition contre Alexandrie, conduite par le roi Pierre Ier en 1365, qui va aboutir par un échec, mais qui va mobiliser pour une dernière fois la noblesse occidentale en Orient. Avec l'abandon progressif des projets de croisade, le caractère honorifique de l'ordre de l'épée va progressivement se substituer à sa dimension militaire. De plus, l'augmentation des effectifs de pèlerins occidentaux à Jérusalem vont donner l'occasion aux Lusignans d'investir de nouveaux chevaliers avec cet ordre, sans ambition militaire, mais attachés au dernier symbole de la domination latine en Orient. Si les souverains chypriotes ont fait véritablement leur deuil d'une levée de chevaliers occidentaux pour les secourir et conquérir Jérusalem, ils gardent des intérêts à entretenir le souvenir de la croisade en Occident. L'ordre de chevalerie, l'ordre de l'épée, sert leur diplomatie en nouant des rapports privilégiés avec les nobles en visite sur l'île. La perte de prestige militaire de l'ordre est compensée par les fastes d'une cérémonie de remise de l'insigne de plus en plus grandiose au 15e jusqu'à la fin du 15e siècle. La rencontre avec le roi à Nicosie est nécessaire pour être investi de cet ordre. Cependant, en cas de force majeure, le roi peut envoyer ses chevaliers auprès d'un pèlerin souffrant notamment de malaria, de fièvre sur la côte pour lui conférer l'ordre. À l'exemple de Simon de Sarrebruck qui est investi de l'ordre à Limassol en 1395. Bien souvent, le pèlerin noble est introduit auprès du roi chypriote par un médiateur, un membre de l'entourage royal, qui partage souvent la même origine géographique que notre pèlerin et la même langue que notre pèlerin qui souhaite être investi de cet ordre. En 1458, le chevalier padouan Gabriel Capodilista est présenté au roi de Chypre par le noble vénitien Andrea Cornaro. En 1480, Santo Brasca est adressé à la reine Catherine Cornaro par deux riches marchands lombards établis dans la capitale, Manfredo dal Bosco et Niccolo Invitiato d'Alexandria, donc de la même région que Santo Brasca. Les pèlerins français qui accompagnent Copart de Vélène à Nicosie en 1423 s'adressent sans intermédiaire au roi pour recevoir l'ordre, mais sont conduits le jour de la cérémonie par un noble chypriote originaire de Tournai comme Copart. Par cette démarche, les récits de pèlerinage montrent que l'obtention de l'ordre est bien à l'initiative des pèlerins qui sollicitent le pouvoir royal. Toutefois, nous avons un contre-exemple, avec en effet certains récits se plaisent à renverser les rôles en relatant la remise de l'ordre comme une forme de récompense du pouvoir royal envers un pèlerin. À l'exemple de Perrault Tafour, qui en 1435 considère que le roi Jean II est redevable de ses services diplomatiques auprès de la cour mamelouque, et c'est en ce sens qu'il reçoit l'ordre. La cérémonie de remise de l'ordre se déroule le plus souvent en soirée dans la chambre du parement du palais royal de Nicosie, sur les bords du Pédiéos, près de la porte, l'actuelle porte de Paphos, à l'ouest de la ville. Les futurs dignitaires portent un flambeau, sont adoubés au nom de Dieu et de Saint-Georges, le patron évidemment de la chevalerie, et reçoivent la collée du roi. Cette première partie de la cérémonie est suivie d'un banquet où l'on consomme du vin et des épices. Le roi remet ensuite autour du cou du chevalier investi un collier d'or orné de pierres précieuses et d'une épée d'or engoulée d'un phylactère où figure la devise « pour loyauté maintenir » que l'on peut encore observer sur ce tableau. Donc vous avez un détail ici sur ce tableau de Jan van Skorrel à Haarlem, daté de 1525. Cette cérémonie se conclut par une prestation de serment, de chevalier intronisé, et la remise d'une charte lors d'un banquet plus ou moins fastueux. Dans le récit de l'italien Luchino dal Campo, les serments sont passés plus tard dans la soirée chez un certain Cristoforo Tintore et sont l'occasion d'importantes réjouissances. Chacun à leur tour, les chevaliers admis à l'ordre de l'épée prêtent serment donc devant Dieu, Notre-Dame et Saint-Georges, sur un pan, l'oiseau, sur un pan rôti, une pratique chevaleresque qui était déjà en vigueur à la cour anglaise d'Édouard Ier et qui s'est sans doute renforcée par la diffusion de l'œuvre à succès de Jacques Longuyon, Les Vœux du Pan, en 1315. Alors, cela fait écho évidemment à la cérémonie de la remise de la toison d'or à la cour de Bourgogne, un petit peu plus tard, à la fin du XIVe siècle. Après la réception de l'ordre, les hôtes peuvent recevoir d'autres présents destinés à consolider les liens établis entre le chevalier et les lusignans, des pièces de tissu, des animaux de chasse et d'autres cadeaux. Les nobles pèlerins diffusent l'image et la mémoire du dernier royaume latin, issu des croisades et de sa capitale, dans les cours européennes, et jouent ainsi les ambassadeurs informel des souverains chypriotes et de leur capitale. À son retour en Occident, le chevalier titulaire de l'ordre chypriote s'attache à afficher son appartenance à l'ordre. Il est fier de montrer qu'il est titulaire de cet ordre, qu'il a réalisé le pèlerinage en Terre Sainte et qu'il a donc rencontré les derniers souverains latins en Orient. Par l'intermédiaire de cet insigne, le pèlerin veut s'élever ainsi à la hauteur de la légende des croisés qui l'ont précédé et ont combattu. Arborer l'épée entourée d'un phylactère donc renvoie une dimension militaire d'un pèlerinage pourtant et certainement qui n'est pas sans danger, mais qui est évidemment bien éloigné des réalités de ce que connaît le pèlerin, des réalités de ce que connaît le croisé à la fin du XIe siècle. Ainsi, les armes de l'ordre se retrouvent dans toute l'Europe, à Venise, à Halle en Belgique, à Rome, à Constance, à Nuremberg, à Berne, majoritairement dans des villes de pays germaniques, d'où les pèlerins partent les plus nombreux au XIVe, XVe siècle. La large diffusion de l'insigne conduit les armoriaux à associer les armes de la monarchie chypriote à l'ordre de l'épée. Les supports sont également très divers. L'insigne de l'ordre figure sur des vitraux, dans des manuscrits, sur des tableaux, sur des pierres tombales. À travers quelques trajectoires individuelles de chevaliers de l'ordre, on peut examiner le rôle qu'a pu jouer l'obtention d'une telle distinction dans la carrière d'un pèlerin qui est passé par Nicosie. On va prendre l'exemple de Conrad Grünenberg, qui est originaire de Constance, en Suisse, qui apparaît assez représentatif de la signification que peut revêtir l'ordre pour ces jeunes nobles occidentaux. Conrad Grünenberg est né vers 1430-1440 dans une famille aisée de Constance. Il s'est profité de l'ascension sociale de sa famille, qui va quitter les rangs des métiers urbains pour accéder à ceux du patriciat. Son père est architecte de profession, il va occuper plusieurs charges administratives plusieurs charges administratives à Constance, notamment celle de grand membre du conseil de la ville de 1454 à 1462. Il est élu, le père de Conrad, donc est élu bourgmestre de Constance à plusieurs reprises et devient même bailli d'Empire. Suivant un peu ce modèle paternel, Conrad entame une carrière d'architecte et entre en grand conseil de la ville. À partir de 1465, le patricien se met au service de Frédéric III et effectue plusieurs missions diplomatiques pour la ville de Constance, auprès notamment du roi de France Louis XI à Paris. Ses activités de représentation vont lui donner l'occasion de nouer des relations avec des notables d'autres villes, de Bâle, de Strasbourg, de Zurich et d'Augsbourg. L'idée du pèlerinage à Jérusalem va certainement germer au cours de ses échanges avec la noblesse allemande, qui manifestait, comme je vous l'ai dit, alors un véritable engouement pour le pèlerinage en Terre Sainte. Après donc son retour d'un voyage de 7 mois à Jérusalem en 1486, il poursuit sa carrière dans les bureaux impériaux jusqu'à sa mort vers 1494, et il choisit donc de représenter sur la dernière page de son récit de pèlerinage les ordres qu'il a reçus à l'occasion de son voyage. On reconnaît l'ordre du Saint-Sépulcre à gauche, suivi de l'ordre de l'épée chypriote, puis l'ordre de la jarre du roi d'Aragon, et enfin la demi-roue de Sainte-Catherine, qui peut signifier donc le passage par le lieu de naissance de Sainte-Catherine, Famagouste. La roue entière signifierait son passage par Alexandrie. On retrouve un parcours similaire à celui de Conrad Grünenberg chez la famille d'Isbar du canton de Berne en Suisse, dont quatre membres, Louis Ier et Louis II, Guillaume Ier et Nicolas II, se sont représentés également avec la roue de Sainte-Catherine et l'épée chypriote sur une série de vitraux réalisée par Hans Funk en 1521 dans le cœur de l'église réformée de Saint-Maurice de Vorbe. Membre du petit conseil de Berne, Guillaume von Dispar a par ailleurs laissé un récit de pèlerinage. Une démarche identique qui vise à afficher la réussite sociale d'une famille dans la ville soutient les choix de représentation des Quetzal, des négociants en métaux, épices et textiles pour la première moitié du XVe siècle. La famille Quetzal quitte Augsbourg entre 1422 et 1435 pour Nuremberg, où elle doit faire ses preuves pour accéder au patriciat de la ville. Et donc la représentation de ces ordres couronne en quelque sorte une ascension sociale. Hors du monde germanique, l'ordre de l'épée jouit également d'un grand prestige social. Sur le tableau des 12 pèlerins de Haarlem de Jan van Skorrel, ce sont deux chevaliers titulaires de l'ordre qui ouvrent le cortège de la confraternité. L'obtention de cette dignité leur permet ainsi d'occuper un rang privilégié parmi les autres pèlerins. En Flandre, la peinture sur toile offre l'exemple d'un chevalier du Saint-Sépulcre, tableau aujourd'hui disparu lors de la Seconde Guerre mondiale, que Catherine Vandenberg a identifié à Garin de Best, mort en 1470, qui présente donc à gauche un écu portant l'insigne de l'ordre de l'épée. En Italie, on retrouve l'insigne chypriote sur la plaque de sarcophage de Manfredo della Croce, conservée à la basilique Saint-Ambroise à Milan. Il est possible qu'il ait obtenu cette distinction lorsqu'il a rencontré des ambassadeurs chypriotes au concile de Constance, à l'époque où Chypre était alliée à Milan lors des mariages avec les Visconti, dont je vous ai déjà parlé. La diffusion de l'ordre de l'épée associée à la monarchie des Lusignans assure la renommée de la capitale chypriote à travers les grandes cours européennes. En plus de cet insigne, les voyageurs occidentaux achètent ou reçoivent de nombreux autres présents de luxe qui contribuent à stimuler le secteur artisanal de la capitale. Les voyageurs occidentaux sont les premiers témoins de la richesse ostentatoire qui se déploie à Nicosie. Lors des parties de chasse sur l'île ou lors des fêtes données dans les palais de la capitale, ils s'émerveillent des riches tissus rehaussés de broderies au fil d'or et des joailleries dont se parent les élites. Le sire d'Anglure remarque par exemple les couvre-chefs, je cite, d'or, de pierre, de perles, portés par les femmes de la famille royale. En 1483, le dominicain allemand Félix Fabry décrit les nombreuses boutiques à Nicosie faisant le commerce de parfums et d'aromates qui sont réputés dans toute l'Europe. À la lumière de ces témoignages, mais également des actes de notaires italiens, l'historiographie de ces 20 dernières années s'est attachée à présenter un tableau plus nuancé de l'économie et du commerce chypriote. En effet, longtemps a prospéré l'idée que le port de Famagouste concentrait tout au long du Moyen-Âge l'essentiel des activités et commerciales insulaires après la prise d'Acre en 1291. Et Nicosie à l'intérieur des terres, une capitale politique, religieuse, mais en matière économique, un simple rayonnement régional. Or, l'examen de la réglementation des métiers de la capitale et le dépouillement des inventaires et livres de comptes occidentaux révèlent comment Nicosie s'est imposée comme lieu de production et d'échange de tissus et d'objets précieux sous les Lusignans. La législation, tout d'abord. Les ordonnances de la cour du vicomte constituent les seuls textes normatifs établissant une réglementation propre à certains métiers de la capitale qui nous soient parvenus grâce à un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de Munich. Ces ordonnances promulguées par ban n'ont autorité que dans la capitale chypriote. On suppose qu'il y avait des modèles équivalents pour les villes côtières. La vérification de la qualité des produits relève du pouvoir royal et constitue un enjeu majeur de ces ordonnances. Les orfèvres sont la première des professions qui a fait l'objet d'une ordonnance sous Henri II en 1286. Les termes du ban font largement écho aux dispositions prises pour l'orfèvrerie dans les réglementations occidentales, comme celle bien connue du livre des métiers d'Étienne Boileau pour Paris au XIIIe siècle. Le contrôle du métier à Nicosie s'exerce par le truchement d'un maître devant qui doit passer toute pièce d'orfèvrerie afin qu'il puisse en contrôler la qualité avant d'être éventuellement vendu à l'extérieur de la ville. Cette dernière mesure vise bien évidemment à assurer la réputation du métier en garantissant la conformité de la production, on pourrait dire en termes modernes, à un cahier des charges, mais également à maîtriser le commerce de ces objets d'art. L'ordonnance prévoit d'ailleurs de sanctionner les orfèvres qui seraient coupables de livrer des pièces de mauvaise qualité en les soumettant à la justice royale. En 1298, la réglementation royale rappelle les tisserands d'étoffes précieuses, comme le camelot, le sandal, le boucran, à leur devoir de présenter à un officier la production afin qu'ils apposent un sceau, une bulle plus précisément, qui garantisse la bonne qualité, la conformité des tissus. La législation qui émane de cette cour du vicomte, une institution contrôlée par le pouvoir royal, contribue à stimuler un artisanat du luxe en encadrant sévèrement la qualité des produits qui sortent des ateliers. Cet arsenal juridique est un des fondements du succès des produits nicosiates sur les marchés occidentaux. À partir de la fin du XIIIe siècle, les inventaires et livres de comptes occidentaux font état de la présence de produits en provenance de Chypre dans les trésors liturgiques et les mobiliers profanes. Les tissus précieux représentent la part la plus importante du luxe chypriote dans les inventaires de biens ecclésiastiques. En 1295, sous le pontificat de Boniface VIII, le trésor de la basilique Saint-Pierre du Vatican comprend des draps de Chypre, un pluvial de samite rouge, des chasubles de différentes couleurs et matières, des tuniques, tous de production chypriote déopérée Cyprensi. Certaines étoffes portent des broderies qui représentent des thèmes comme l'Annonciation, la Nativité, etc. On a également un document, un témoignage écrit, une lettre de remerciement du pape Benoît XII à l'archevêque de Nicosie pour l'envoi de vêtements de différentes couleurs qui confirment l'appétit du Saint-Siège pour ces tissus en provenance de Chypre, pour ce luxe chypriote. De manière générale, les tissus précieux nicosiates séduisent tous les ecclésiastiques chargés des achats pour le compte des églises et d'établissements modestes de la chrétienté occidentale. On a l'exemple de la collégiale de Vernon qui fait l'acquisition d'un chasuble en camelot, donc une étoffe en poil de chèvre de Chypre, pour 7 livres et 12 sols auprès de Jean Quesnel, un chasublier de profession établi rue du Grand Pont à Rouen. Si le succès des produits du luxe Nicosia tient en partie à l'arsenal juridique mis en place par les Lusignans, il est également redevable de l'esprit d'innovation des artisans grecs et syriens dans la capitale. Le fil d'or et plus rarement d'argent figure sans conteste au premier rang des pièces de l'orfèvrerie chypriote qui figurent dans les inventaires occidentaux ou sur les notices d'œuvres exposées. La composition exacte du fil d'or n'est pas totalement élucidée malgré les progrès réalisés notamment en matière d'analyse scientifique. Les observations au microscope ont révélé qu'il était constitué de fines lanières de ce qu'on appelle la baudruche, c'est-à-dire une pellicule faite avec de l'intestin de bœuf ou de mouton, qui, grâce au collagène sur les deux faces de cette pellicule, peut coller sur un fil d'âme qui est en soie, et par-dessus, on peut entortiller une mince couche de feuilles d'or, et on a un fil d'or, comme cela, qui est à la fois souple et résistant, où la couche d'or est véritablement très fine. Ce procédé, qui a sans doute été inventé en Asie, a été introduit à Chypre très tôt au XIIIe siècle par peut-être des artisans byzantins, grecs ou plus sûrement syriens. Cette innovation technique va avoir un succès fulgurant en Occident. Il va remplacer les lourds fils constitués uniquement d'or, évidemment beaucoup plus chers que ces fils d'or, qui est un artisanat finalement de luxe, mais de consommation, mais de production presque industrielle. Ce succès, un fort succès, donc au point d'être copié par les ateliers italiens au XIVe siècle. Le musée municipal d'Évreux conserve une mitre de la collégiale d'Écouy, sans doute exécutée dans un atelier anglais au XIVe siècle, qui comporte plusieurs personnages brodés de fils de soie et également de fils d'or de Chypre. Le trésor de la Sainte-Chapelle, la chapelle du duc de Bedford, le régent de France, incluent divers parements, divers vêtements liturgiques également brodés alors de Chypre. Les trésors de cathédrales, on ne les cite pas tous, Auxerre, Reims, Saint-Brieuc, comportent également des broderies d'or de Chypre. Parmi les pièces d'orfèvrerie exécutées dans les ateliers Nicosiate, il faut signaler également l'importance des articles de parfumerie, appelés oiselets de Chypre, fréquemment cités dans les inventaires occidentaux. La mode des brûle-parfums, destinés à agrémenter les appartements des résidences princières, est apparue en Occident au XIIe siècle. Ces objets d'art, dont les inventaires ne donnent pas souvent la provenance, sont réalisés dans des ateliers d'orfèvres qui leur font épouser des formes diverses, des coffres, des caisses, des cagettes, des chandeliers. On a par exemple l'inventaire de Jean, le duc de Berry, qui a reçu en cadeau de la reine de Chypre une pomme garnie d'or pendant un collier de perles. Sur ce cliché, nous avons l'exemple d'un brûle-parfum avec des motifs orientaux qui figurait parmi les biens de la dernière reine de Chypre, la vénitienne Catherine Cornaro, à la fin du XVe siècle. À l'intérieur de ces objets, on disposait donc ce que les sources nomment des oiselets de Chypre, c'est-à-dire des petites boules de tissu que l'on perçait, qui était crevé afin que le parfum s'exhale à travers ces objets d'orfèvrerie. Les pièces d'orfèvrerie et autres objets d'art n'affleurent pas dans les contrats commerciaux enregistrés chez les notaires, mais il fait peu de doute que ces produits trouvent également leur place dans les cales des navires génois et vénitiens. La diffusion des produits de luxe nicosiate sur les foires de champagne ou dans les boutiques des grandes villes dépend en premier lieu de l'activité des hommes d'affaires italiens et catalans qui dominent alors le commerce entre Chypre et la Méditerranée occidentale. L'enrichissement des trésors occidentaux en objets d'art nicosiate s'explique également par le fonctionnement parallèle de réseaux non marchands. On a de riches bienfaiteurs comme des pèlerins, des marchands des croisés, qui, revenus d'un voyage à Chypre, ont voulu laisser un souvenir prestigieux de leur séjour au royaume des Lusignans, à une abbaye ou à une église auxquelles ils étaient attachés. Je terminerai donc par ce dernier exemple. Le chevalier au ton de Grandson, qui est connu pour avoir gratifié la cathédrale de Lausanne d'un antependium qui représente la Vierge portant le Christ entourée des archanges Michel et Gabriel, selon une iconographie typiquement byzantine, mais accompagné d'écritures en français. Saint-Michel, Saint-Gabriel. Le devant d'autel, cet antépédium, aurait été brodé sur commande d'un chevalier vaudois, donc Othon de Grandson, au cours de son séjour à Nicosie, après la chute d'Acre en 1291, peut-être en remerciement d'avoir eu la vie sauve lors de cet événement, et donc sans doute dans des ateliers grecs. L'installation dans le royaume de Chypre d'hommes d'église venus d'Occident a contribué tout au long de la domination latine sur l'île à la promotion des arts somptuaires chypriotes dans la province d'origine de ces clercs. On a d'autres exemples de clercs donc nommés à Nicosie, puis qui retournent dans leurs églises en Occident, qui ramènent avec eux des reliquaires, notamment avec des morceaux de la vraie croix. Les alliances matrimoniales des Lusignans vont également contribuer à ce transfert d'objets précieux de Chypre vers l'Occident. On pourrait citer également le voyage de Pierre Ier lors de son recrutement de chevaliers occidentaux pour sa croisade de 1365, qui va ponctuer son voyage d'étapes en Italie, en Allemagne, en Pologne, en France, et va laisser aux différentes églises, aux différentes cours, des objets précieux provenant de Chypre, dont malheureusement on a seulement la mention dans les chroniques ou dans les inventaires d'églises et de palais, mais dont il reste bien peu de traces, dont il reste malheureusement, dont il ne reste plus de traces aujourd'hui. Au terme de cette présentation, j'espère qu'à l'image de ces pèlerins normands qui décrivaient la capitale chypriote à leur retour de pèlerinage, j'ai pu à mon tour vous transmettre la fascination que l'on peut éprouver à édifier l'histoire d'une grande ville médiévale d'Orient, dont il reste aujourd'hui malheureusement peu de vestiges et encore moins d'archives. Par des chemins détournés dans les récits de voyage, les inventaires occidentaux, les chroniques, on a pu mesurer combien la politique conduite par les Lusignans s'est avérée efficace pour assurer le développement de l'espace urbain, la coexistence d'une grande diversité de communautés chrétiennes et le rayonnement diplomatique, économique et culturel de leur capitale. Au cours du siècle qui suit la prise du pouvoir par Venise en 1474, les nouvelles autorités ne remettent pas en question l'organisation de l'espace urbain dans un contexte économique et financier pourtant bien plus difficile, bien différent, plus compliqué. Seule la menace ottomane contraint les Vénitiens à opérer une transformation, en revanche, radicale de cet espace urbain à partir de 1567 avec la création de ces fortifications et ces 12 bastions tout autour de la ville. Nicosie, comme le reste de l'île, est prise par les Turcs en 1570-1571 pour Famagouste. Les pèlerins occidentaux qui s'arrêtent à Chypre, se font un temps plus rare, mais un mouvement inverse de Chypriotes partant en exil en Occident s'observe alors. Parmi ces derniers, on compte un noble connu sous le nom de François de Circassie et son père, Jérôme, capturé sur les murs de Nicosie en 1570 et emmené à Constantinople, réduit en esclavage. Il est emmené l'année suivante, lors de la bataille de Lépante, qui mobilise l'ensemble des forces de la chrétienté sous l'égide du pape et d'Androan d'Autriche. Il est emmené avec les forces turques à la bataille de Lépante et par le hasard de cette bataille et par la victoire des forces chrétiennes, il est libéré lors de cette bataille. Les archives de Seine-Maritime nous apprennent qu'après sa libération et d'autres péripéties que je ne vous résumerai pas, il fut abbé de Saint-Victor en Caux, aujourd'hui Saint-Victor l'abbaye. Il s'éteint à Rouen le 19 mars 1618, sans laisser de témoignage sur sa ville Nicosie et son pays d'origine, emportant avec lui, dans sa ville d'adoption, Rouen, un ultime témoignage de la présence latine à Nicosie. Je vous remercie de votre attention.